Et sur Radio Classique, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal. Bonjour Lénaïque.
Bonjour David, bonjour à tous. Face aux menaces de surtaxes douanières, les Européens s'affichent unis. Ont-ils le choix? Nous accueillons dans un instant le géopolitologue, chercheur associé à l'IRIST, Romuald Sciorra. Les salariés d'Orange à Marseille soulagés, la direction approuve le déménagement d'un site ciblé par les narcotrafiquants. Et puis le Maroc battu à domicile en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des faits sportifs certes, mais pas économiques.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal avec les échos suivi de Christophe Dembic, conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management. Il est l'invité des Voix de l'économie. Et à la une de ce journal, le bras de fer entre l'Europe et Donald Trump autour des droits de douane.
Un chantage initié par le président américain s'il n'obtient pas l'octroi du Groenland, ce territoire sous protectorat danois. Donald Trump a donc annoncé des sanctions douanières à l'encontre de 8 pays européens, dont la France, après leur soutien au Groenland. L'Union européenne a de son côté mis en garde contre une spirale dangereuse. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair ce matin avec Romuald Sciorra. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis au sein de l'IRIS. D'ailleurs, et pour faire simple, pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas forcément suivi cette actualité durant le week-end, quelle est votre lecture de ces menaces encore de Donald Trump via ses droits de douane ?
Écoutez, c'est très simple. Hein. Donald Trump a fait des États-Unis la première superpuissance voyou de l'histoire. Il faut admettre aujourd'hui que les Américains ont un comportement, je dirais, mafieux. On l'a vu encore récemment, par exemple, lorsque les États-Unis avaient taxé à 50% le Brésil, sans se draper derrière le prétexte des méchants européens, les méchants canadiens, tout simplement parce que Bolsonaro allait se retrouver en prison. Lorsque ils ont enlevé Maduro au Venezuela, il ne s'agissait pas de changer un régime ou de venir à l'aide de la population, de répondre à l'appel de l'opposition. Non, pas du tout. Ils ont juste enlevé le patron parce que celui-ci avait refusé de leur donner la caisse et fait chanter le numéro 2 pour qu'il la leur donne. Bref, on est donc face à une puissance voyou et donc ce qui se passe est du même acabit, c'est-à-dire que les Européens ont, avec raison, haussé le ton. Ils ont envoyé symboliquement, bien évidemment, quelques hommes au Groenland. Donald Trump ne peut l'admettre car il voudrait obtenir légalement le Groenland, mais il se méfie de tout dommage économique que cela pourrait porter aux États-Unis et qui pourrait se répercuter dans le portefeuille de ses électeurs. Et donc voilà que donc les Européens se mettent en travers de son chemin. Et donc il faut les punir comme il sait s'y prendre, c'est-à-dire avec ce comportement de blackmail, chantage.
Alors justement, Romuald Sciorra, l'Europe montre les muscles à son tour. C'est finalement la seule méthode valable face à un Donald Trump toujours plus vindicatif?
Oui, écoutez, c'est la seule méthode valable, mais plusieurs observateurs, dont moi-même, regrettent que les Européens n'aient pas été plus explicites. Nous sommes face à une présidence américaine ultra-masculiniste, comme l'on dit aux États-Unis, dans le pays où je vis. Vous savez, le masculinisme, c'est une idéologie, c'est-à-dire une politique de la force, du virilisme, au sens étymologique, poussé à son extrême. Et les Européens ont eu un geste fort, ils ont tout à fait raison dans le voyer ces quelques hommes, mais dès le lendemain, les Allemands ont un petit peu cassé, si je puis dire, l'ambiance. Ils ont validé le narratif Trump, puisqu'ils ont dit « nous avons envoyé quelques troupes », mais pas du tout à l'encontre des Américains. C'est pour prévenir le Groenland d'une possible invasion russo-chinoise, alors que tout le monde sait très bien que le Groenland ne risquait aucune invasion russo-chinoise. Les Allemands ont donc validé le mensonge de Trump. Donc je dirais, oui, les Européens ont bien fait, bien évidemment, mais malheureusement, cette réponse semble un petit peu flou, et puis surtout la détermination des 27, on n'est pas certain que cette détermination dure sur le moyen terme.
Justement, avec ce fameux bazooka commercial, cet outil anti-coercition qui a été brandi par les Européens, alors il faut 55% d'approbation au sein des États membres. L'Union fera la force, sans quoi ce sera raté, ce sera simplement un coup d'épée dans l'eau.
Oui, bien évidemment. Écoutez, si l'Europe recule, et je crains qu'elle recule, car elle est quand même divisée, ce sera évidemment un coup dans l'eau. Mais si Trump ne parvient pas à acheter le Groenland pour des raisons X ou Y, et qu'il décide de s'en emparer donc par la force. Alors attention, ça ne sera pas une invasion avec des tanks, des coups de fusil, etc. Ça sera présenté, ils ont présenté l'enlèvement de Maduro comme une opération de police, ça sera présenté comme une opération de maintien de la paix préventive à l'encontre des Russes et des Chinois. Néanmoins, s'il donc se saisit du Groenland par la force, ce sera en quelque sorte, bien évidemment, la fin de l'OTAN, mais aussi, sans aucun doute, les prémices de la fin de l'Union européenne.
Dernière chose, Romuald Sura, est-ce que Donald Trump joue gros également politiquement dans son propre pays ?
Oui et non. C'est-à-dire que, alors qu'il est, les Américains ne sont pas spécialement en faveur d'une intervention au Groenland, parce que ils n'ont pas, croyez-moi bien, je suis américain, je connais bien la mentalité de ce pays. Les Américains sont vaccinés des guerres à rallonge, comme l'Iran, l'Irak, et la plupart d'entre eux n'ont pas tout à fait conscience des enjeux géostratégiques au Groenland. Et donc, ils ont peur d'une intervention. Mais, si Donald Trump demain obtient le Groenland sans qu'un coup de feu soit tiré, sa popularité remontera en flèche, un petit peu comme après les attaques en juin dernier contre l'Iran. Les Américains étaient opposés quand ils ont vu que ce n'était qu'une attaque circonstancielle et qu'il n'y avait pas de coup de feu qui a pu être tiré à l'encontre d'un soldat américain. Trump est remonté dans les sondages. Donc oui, s'il réussit à obtenir le Groenland, non. Les Américains restent soudés et posent des sanctions et taxent les Américains, là ça se fera ressentir dans le portefeuille des États-Unis et ils en voudront à Trump, ça se paiera dans les urnes au mois de novembre prochain.
Merci Romuald Sura de votre éclairage ce matin sur Radio Classique, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis au sein de l'IRIS.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'issue des débats sur le budget qui se rapproche.
Oui, Sébastien Lecornu a précisé l'effort demandé aux entreprises. Il va trancher dans la journée entre l'article 49.3 et l'ordonnance. Dans une lettre adressée au patronat hier, le Premier ministre a fait deux grandes annonces. La première concerne la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle sera maintenue à son niveau de 2025 et doit rapporter 8 milliards d'euros. Il n'y aura pas non plus de baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre cet après-midi pour les élèves de terminale, mais aussi les étudiants en réorientation. Ils doivent faire un choix avant le 12 mars parmi 25 000 formations. Un accident ferroviaire impliquant deux trains à grande vitesse a fait dimanche au moins 21 morts et plus de 70 blessés, dont 24 graves dans le sud de l'Espagne. Une collision très violente a projeté des wagons hors des rails. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez évoque une nuit de profonde douleur pour le pays. Retour en France, et c'est un dossier que nous avons suivi ces dernières semaines sur Radio Classique, celui du site d'Orange, situé dans les quartiers nord de Marseille, à Saint-Mauron, un quartier bien connu des narcotrafiquants. En décembre, face au risque de règlement de compte entre bandes rivales, les salariés étaient restés chez eux pendant 15 jours. En début d'année, le 5 janvier, des impacts de balles de Kalachnikov ont encore été observés. Et jeudi, le déménagement a finalement été accepté, ce qui est un soulagement pour tous, comme nous l'explique ce syndicaliste de la CGC Orange.
Les salariés ressentent un vrai profond soulagement en fait. C'était monté crescendo la peur et elle était devenue vraiment très très omniprésente et surtout elle avait envahi la sphère familiale. Donc là c'est vraiment un soulagement, même si on reste vigilant sur les modalités, sur le temps que cela va prendre. Mais bon, on sait que l'entreprise n'a pas de baguette magique. Je pense qu'il n'y aura jamais de retour en fait de la partie tertiaire sur Saint-Mauron. Il y a un tel dispositif qui est imposé par l'inspection du travail, par exemple le port de gilets pare-balles pour les adjoints de sécurité, la mise en place de vitrages blindés pour toutes les guérites. Je ne vois pas comment on pourrait revenir, même de manière temporaire, même des petites équipes à Saint-Mauron, en fait. Ça me paraît compliqué.
Le département des Pyrénées-Orientales est à son tour entré en vigilance orange, pluie, inondation, rejoignant les deux départements corse. L'Aude est en alerte pour un risque de pluie, inondation et de crue. L'Hérault est de son côté concerné par un risque de crue.
Radio Classique, il est 7h08. La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée hier soir avec la victoire du Sénégal contre le Maroc, pays organisateur de l'événement.
En résumé, un pénalty, un boycott, une panenka ratée, une folle fin de match qui a donc vu le succès du Sénégal 1-0. La CAN, c'est un événement lucratif entre la billetterie, les sponsors, le tourisme et les droits télé. De l'argent qui rentre dans le pays hôte depuis plusieurs années au fur et à mesure que la compétition gagne en visibilité. Voilà qui sert à façonner l'image économique de tout un continent et renforce son attractivité, Fabien Albert.
Confiance, organisation, crédibilité, réussir le pari de la Cannes, c'est montrer son sérieux. Un gage de confiance pour de potentiels investisseurs qui évaluent les risques avant de se lancer. Fabrice Lolia est docteur en sciences de l'information et de la communication.
Cette image-là, elle est importante dans beaucoup de pays qu'on voit développement parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir une image forte qui permettent aux investisseurs d'avoir confiance et d'investir dans le pays. C'est tout l'art du soft power, pouvoir attirer des investisseurs en leur montrant qu'on sait organiser quelque chose et vous pouvez avoir confiance, donc venez.
Une image qu'il faut à tout prix véhiculer, en particulier sur les réseaux sociaux où le moindre couac peut gâcher la réputation de l'organisation.
Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand on a un stade vide, c'est une image négative. Et l'image négative, elle va être diffusée beaucoup plus rapidement que la bonne image du stade plein où tout le monde s'amuse.
Ça, le Maroc l'a bien compris. Face à des tribunes claires semées sur certains matchs en début de compétition en raison des prix élevés, les autorités ont décidé d'ouvrir gratuitement les tribunes.
Les précisions de Fabien Albert pour Radio Classique.
Merci Lénaïque, vous revenez à 8h pour un autre journal. À suivre, après l'annonce des sanctions américaines sur les tarifs, les Européens brandissent le règlement anti-coercition. L'analyse à suivre de François Vidal, Radio Classique, 7h10.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en rose, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là ? Comment les Américains le vivent-ils ? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux. Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€ réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h12, l'éditorial de l'économie.
Avec Valtus, présent dans 28 pays, notre objectif, votre réussite.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Donald Trump est manifestement prêt à tout pour mettre la main sur le Groenland. Sa menace de sanctions commerciales contre les pays européens qui s'y opposent en a apporté une nouvelle preuve ce week-end.
Oui, la voie du chantage qu'il a décidé d'emprunter pour arriver à ses fins dit en tout cas beaucoup du peu d'estime dans lequel il nous tient. Après avoir obtenu gain de cause assez facilement l'été dernier dans son bras de fer avec l'Union européenne sur les tarifs douaniers, il est manifestement convaincu qu'en agitant de nouveau le risque d'une guerre commerciale, il parviendra à annexer le Groenland rapidement. Une attitude qui valide a posteriori l'idée qu'en refusant le rapport de force sur le dossier commercial, Bruxelles a commis une erreur stratégique. Dans l'esprit de Trump, nous sommes un peu le hagnan de la géopolitique mondiale, le bon élève du petit Nicolas, incapable de se défendre. Et comme il vient d'essuyer plusieurs revers, aussi bien sur le front intérieur, où ses projets de mainmise sur la fête sont entravés, que sur la scène internationale, où le régime iranien s'accroche au pouvoir par tous les moyens, y compris les plus cruels, il se tourne vers nous à la recherche d'un succès facile.
Mais les Européens ont l'air bien décidés à se défendre cette fois.
Oui, ils ont raison. En brandissant, comme le demande Paris, le bazooka anti-coercition, ils pourraient menacer à leur tour de restreindre les importations provenant des États-Unis, voire de bloquer les investissements américains. L'objectif ne doit pas être de s'engager dans une escalade menant à une guerre économique transatlantique, mais de rétablir une forme d'équilibre qui va bien au-delà de la question du Groenland. Face à Trump, qui ne négocie pas mais impose, les Européens doivent être prêts à assumer un rapport de force économique et politique. S'ils sont en mesure de maîtriser ce rapport de force, ils peuvent espérer peser face à Washington sur tous les grands dossiers stratégiques. Sinon, la présidence Trump, qui fêtera cette semaine son premier anniversaire, risque d'être longue et pénible pour l'Europe.
L'éditorial de l'économie par François Vidal avec les Échos qui titre ce matin « Budget, les entreprises paient la note ». Et c'est vrai que l'économie française est à la merci de l'escalade tarifaire provoquée par Donald Trump qui peut mettre l'économie française par terre. Et puis il y a ce budget dans lequel on voit que la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne sera pas baissée, de même que la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises est maintenue. Voilà autant de mauvaises nouvelles pour l'économie française. Radio Classique, il est 7h15, voici l'invité des Voix de l'économie.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Stéphane, votre invité est conseiller stratégie chez Pictet Asset Management.
Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
Bonjour Christopher Dembic, bienvenue sur Radio Classique. La France réclame l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en réponse à l'augmentation des droits de douane américains annoncée par Donald Trump. Cet instrument n'a jamais été utilisé, il est présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir sur notre économie? Est-ce que vous pensez que l'Europe, en voulant pénaliser les États-Unis, risque de se tirer une balle dans le pied?
Complètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe n'est pas immunisée. Et surtout, elle est très dépendante aussi des États-Unis, y compris en termes d'investissement. Il suffit de regarder juste un sujet qui est très tendance depuis un an, c'est la défense. Une grande partie de nos matériels sont dépendants des Américains, notamment en termes de maintenance. Il suffit effectivement qu'on dégoupille cette fameuse arme nucléaire et que les Américains répliquent tout simplement sans maintenance de nos outils militaires. Donc, ils ont énormément aussi de leviers derrière cela. Et le risque, c'est d'être dans une situation un peu perdant-perdant, où finalement, à la fin, et je pense que Trump le sait, les Européens courberont les Chines.
Ouais. Sur le plan financier, l'Europe est très dépendante des États-Unis. Est-ce qu'on peut se permettre une décorrélation, ne serait-ce que sur les réseaux de paiement? Visa, Mastercard, American Express, ce sont tous des réseaux américains sans équivalent en Europe.
Complètement. On n'a jamais réussi à construire une myriade d'infrastructures. On regarde même dans le cloud. Si vous regardez vos applications juste sur vos smartphones, ou même d'ailleurs le smartphone lui-même est souvent américain. Donc la réalité, c'est qu'on a eu créé une dépendance qui est telle qu'aujourd'hui, essayer de brandir cet outil, c'est de la communication, mais je pense que tout le monde a conscience qu'il n'y a aucun levier en face qui permette d'être suffisamment dur face aux Américains.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, disait la semaine dernière à nos confrères de BFM TV que les États-Unis étaient en train de semer les graines d'une prochaine crise financière. Il parlait de la dérégulation du secteur bancaire aux États-Unis, mais est-ce que plus généralement, vous avez le sentiment que la politique de Trump à l'international risque d'entraîner une crise financière?
Non, pas nécessairement. Et la réalité, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va advenir avec une crise financière. Tous les deux, je pense qu'on a suffisamment d'expérience pour savoir les éléments qu'on mettait en avant, ça n'a jamais traduit par une crise financière. C'est toujours des points du marché qui sont hors des radars.
C'est généralement le scénario qu'on n'attendait pas.
Exactement, complètement inattendu. Aujourd'hui, la déréglementation aux États-Unis, elle a effectivement là. Mais là où il y a des points de fragilité, comme les banques régionales, vous avez finalement plus de réglementation sur ce levier-là. Donc, c'est complètement erroné. On n'a aucun élément qui font qu'aujourd'hui, la politique de Trump serait susceptible de créer une crise financière.
Le forum économique de Davos débute aujourd'hui, il va durer jusqu'à vendredi. Est-ce que ce type d'événement a encore du sens pour l'économie mondiale?
Alors on est assez dubitatif, puisqu'aujourd'hui, à part quelques modèles économiques, tout le monde est effectivement capitaliste, considère que la mondialisation a quand même des bienfaits au final, et on a suffisamment de chiffres pour corroborer cet aspect. Peut-être l'élément qui est intéressant, c'est qu'on a eu les Américains qui viennent en force, alors qu'ils avaient négligé Davos, y compris sous Biden, mais beaucoup plus bien sûr sous le premier mandat de Trump. Donc il y a une opération séduction. À mon avis, je l'analyse de cette manière, c'est que les Américains aujourd'hui font face à un petit problème de leur politique, c'est la dédollarisation. Les États cherchent à utiliser d'autres monnaies. Donc c'est aussi peut-être une opération séduction pour rappeler, les États-Unis sont incontournables et on peut faire encore du business avec vous, même si effectivement ça peut être un peu rugueux parfois.
Ouais. Mais est-ce que les marchés financiers en attendent quelque chose de ce forum économique mondial?
En général, c'est un non-événement. Et cette année encore plus, quand vous êtes dans une situation où l'économie mondiale va bien, elle est proche de son potentiel, les marchés financiers se portent plutôt bien sur l'ensemble, il y a des belles performances un peu partout, y compris en Europe. Donc c'est vrai que c'est pas un enjeu pour les marchés.
Vous parliez de la dédollarisation. L'administration Trump s'est de nouveau confrontée à la réserve fédérale ces derniers jours, la Banque centrale américaine. Est-ce que là encore, il n'y a pas un risque pour la stabilité monétaire, pour la force du dollar et par effet de levier sur l'économie mondiale.
Alors ça peut accentuer justement cette volonté d'être un peu moins exposé au dollar. Est-ce que ce sera suffisant pour que ça se voit vraiment dans les chiffres ou que ça ait un effet structurel? Probablement pas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Trump joue beaucoup de la communication, mais tous les présidents de la Fed ont été confrontés à un président américain compliqué, qu'il soit démocrate ou républicain. Vous aviez le New York Times en 1965 qui disait que Johnson, démocrate, avait même bousculé le président de la Fed dans son ranch au Texas, parce que le président de la Fed ne voulait pas effectivement aider la politique de la Maison-Blanche. Donc c'est un peu structurel d'avoir toujours ce sujet-là. La Fed est indépendante, mais malgré tout, il y a une forte pression de la Maison-Blanche.
La politique de Donald Trump a aussi entraîné une remontée des taux obligataires sur les marchés. Est-ce que ça peut aussi entraîner une hausse des taux pour nous, Européens, et donc renchérir le coût de notre dette?
Oui, ça, je pense que c'est assez inévitable. Il y a un sujet aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est quand même le sujet de la dette, qui est vraiment palpable. Aux États-Unis, rappelons que Trump a été élu en disant on va baisser la dette, et c'est tout le contraire qui se produit. En Europe, on n'arrive pas structurellement à baisser la dette, malgré des investissements, malgré la volonté, effectivement, d'augmenter la croissance, qui pourrait potentiellement, à un certain stade, faire baisser le niveau de la dette. Donc, indéniablement, je pense qu'il faut comprendre qu'on a de la chance encore que les taux soient pas aussi élevés qu'ils devraient l'être, parce qu'on a des banques centrales qui se permettent de jouer le coussin de sécurité. Mais dans un monde réel, en économie, on devrait emprunter à des taux beaucoup plus élevés. La France, même l'Allemagne, qui est plutôt un bon élève, et bien sûr les États-Unis.
Ouais. Quel est l'ordre de grandeur?
Pour la France, typiquement, on devrait être autour de 4 à 5% sur du 10 ans, alors qu'on est plus autour des 3% en règle générale.
C'est-à-dire relativement proche des taux américains.
Exactement. Et donc, vous avez ce qui se passe sur le marché ne reflète pas les réalités structurelles en termes de dette et de déficit.
Vous êtes un acteur des marchés financiers qui ne se sont jamais aussi bien portés. La Bourse de Paris a récemment battu un nouveau record, malgré l'incertitude, malgré la fragmentation du monde. Est-ce que vous avez le sentiment, et je crois vous avoir posé plusieurs fois la question, que les marchés sont décorrélés de la réalité?
Complètement. Ce qui compte pour les marchés, c'est deux éléments. Certes, il y a des entreprises, donc c'est la bonne santé des entreprises, ça c'est normal, et on est dans la saison des résultats trimestriels. Mais l'élément qui est crucial, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle la liquidité sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, vous êtes à des niveaux de liquidité qui sont records. Donc en général, quand même, c'est positif pour les marchés.
Mais est-ce que le rêve n'est pas en train d'atterrir, le rêve de l'intelligence artificielle? Est-ce que les marchés ne sont pas en train de se rendre compte qu'on a peut-être placé beaucoup d'espoir, ou en tout cas beaucoup trop tôt?
Ah, il faut avoir toujours conscience dans une innovation que ça prend plus de temps que prévu. Et c'est vrai que quand vous avez quelques éléments vous disant « Ah, l'IA, ça va faire des gains de productivité, etc. très rapide », c'est erroné. Déjà, il faut mesurer les gains de productivité. J'ai une formation d'économie, croyez-moi, c'est déjà compliqué. c'est le premier point. Et surtout, ça prend des dizaines et des vingtaines d'années. Donc, ça remet pas en cause la révolution de l'IA, mais en fait, il faut comprendre que ça va prendre un certain temps à avoir des vrais gains sur les entreprises et sur le quotidien.
On va évidemment surveiller l'ouverture des marchés financiers en Europe ce matin pour voir comment est-ce qu'ils réagissent à la perspective ou au risque d'une guerre commerciale. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les marchés sont devenus plus risqués, plus incertains, avec nécessairement plus de volatilité?
Plus de volatilité, ça on le constate sur tous les actifs, y compris les devises, les actions, l'obligataire, ça c'est très très net. Mais malgré tout, une tendance structurelle à la hausse, en tout cas sur les actions. C'est ce qui est assez paradoxal, c'est que on s'habitue au risque, mais en même temps, on considère qu'on est toujours optimiste pour l'avenir, donc effectivement plutôt positif. Je vous avoue, même si ça va être volatile cette semaine, la réalité c'est que ça resterait haussier sur les actions. J'ai assez peu de doutes à cet égard.
Ouais, ça reste le meilleur placement à long terme. L'histoire nous l'a confirmé. Merci beaucoup, Christopher Demme, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
Merci à tous les deux. Stéphane, à demain, dès 6h pour la matinale de l'économie. Tout de suite, et si nous parlions français avec Karine Dijoux, ce sera suivi des coulisses de la politique. Le gouvernement décide aujourd'hui de la méthode qu'il utilisera pour passer le budget, le 49-3 ou les ordonnances. Explication à suivre de Marcelo Vesfred, Radio Classique, il est 7h22.
Chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 euros ou en classe affaires à partir de 1499 euros.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Karine.
Bonjour David.
On va parler de ces mots qui refusent de se prononcer comme ils s'écrivent. Ben on commence avec des exemples et ils sont nombreux.
Oui, le français adore nous piéger. On a l'impression d'avoir un mot tranquille, bien écrit. Mais au moment de le prononcer, il nous met en difficulté.
Il y a le mot que l'on emploie tous les jours, c'est monsieur.
Oui, à l'écrit, on lit mon sieur. Mais à l'oral, cela donne monsieur. Pourquoi ? Monsieur est un mot proclitique, c'est-à-dire que sa prononciation dépend du mot qui le suit. Son orthographe comme sa prononciation ont évolué. Le mont a laissé la place à mot, monsieur, puis à me, monsieur. Il s'agissait aussi de casser les codes de l'ancien régime. Sa prononciation résulte donc d'une évolution phonétique, mais l'orthographe n'a pas suivi.
Il y a aussi le mot femme. Pourquoi le prononce-t-on avec le son A et non le son E? Comme flemme, par exemple.
Il s'agit d'une évolution linguistique séculaire, façonnée par l'usage populaire, mais aussi par les transformations phonétiques et la tradition écrite. Ce mot vient du latin femina. Il se prononçait d'abord fem et s'écrivait femme, F-E-M-E. Ou femme, il y avait déjà les deux M, mais on prononçait bien fem. Le E long s'est progressivement transformé en un son nasal, ce qui donne femme, vous savez, comme à Toulouse, où on peut dire en E. Puis il est devenu le A clair que nous connaissons, femme. C'est un glissement phonétique qu'on observe souvent en français. Mais l'orthographe est restée inchangée. La population était majoritairement illettrée. Les érudits, quant à eux, ont conservé l'orthographe traditionnelle et défendu la graphie héritée du latin. C'est donc un symbole supplémentaire de la tension entre tradition écrite et modernité orale.
C'est un peu comme Karine Dijou, il y a un D au bout et on ne le prononce pas.
Exactement.
Donc je ne dis pas au revoir Karine Dijou, je dis à demain Karine.
À demain.
Voilà.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez. Le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Union des coopératives agricoles françaises. Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec InVivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Marcelo Vesfred à 7h26 pour les coulisses de la politique. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Un conseil des ministres doit se tenir aujourd'hui qui devrait être uniquement convoqué pour faire aboutir le budget en dégainant le fameux article 49.3. Encore faut-il que cette option soit décidée. Comment le gouvernement compte-t-il justifier cette méthode ?
Alors c'est vrai, les choses s'accélèrent. Emmanuel Macron doit réunir cet après-midi le gouvernement pour lui donner son feu vert. Et sauf immense surprise, ce sera donc le 49.3 pour faire passer le budget. Ce 49.3, il est réclamé par un nombre incalculable de leaders qui veulent en finir avec ce budget interminable. Budget qui ne peut pas être adopté par un vote normal, faute de majorité. Et puis, le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, le dit dans nos colonnes ce matin, avec toutes les mesures accordées par le gouvernement, le PS n'a pas l'intention de censurer Sébastien Lecornu. Bref, David, la voie est ouverte et après 4 mois de débat, on devrait enfin avoir un budget.
Oui, mais comment va faire le Premier ministre ? Il avait promis de ne pas avoir recours à cet article 49.3, article de la Constitution.
Alors ça c'est vrai, mais le gouvernement a déjà préparé son argumentaire et je vous le livre. Le gouvernement dira ce n'est pas un 49.3 violent de passage en force, c'est un accord de non-censure, c'est un compromis voté en quelque sorte, c'est un non-vote final. Voilà ce qui sera dit selon un conseiller que j'ai eu hier au téléphone. Autre argument, la France n'est pas encore capable d'accepter les compromis, elle n'a hélas, pas cette culture dans l'exécutif. On rappelle d'ailleurs que Sébastien Lecornu a tout fait jusqu'au bout pour essayer de tenir sa promesse et ses soutiens ont fait le calcul. Avec sa méthode de dialogue, il aurait évité, disent-ils, 9 fois de recourir au 49-3 en comptabilisant le projet de loi de finances de la Sécu et les premiers allers et retours sur le budget de l'État. Mais là, pour clore le processus, tout cela s'est révélé impossible.
Il n'empêche, ce sera quand même vu comme un reniement de sa parole.
Clairement, pour lui, comme d'ailleurs pour le Parti Socialiste, la gauche d'ailleurs avait inscrit dans son programme du nouveau Front Populaire la fin du 49-3, outil constitutionnel honni depuis la réforme des retraites. Et voilà, corps caméra, c'est quand même incroyable. Ils le réclament tous maintenant pour engranger leurs très coûteux gains politiques. Comme quoi, David, les symboles en politique sont réversibles.
Sans parler du coût pour les entreprises, coût économique, parce que c'est un budget qu'elle redoute et dont elle redoute les conséquences. Marcelo Westfred pour Le Parisien aujourd'hui en France, les coulisses de la politique tous les jours sur Radio Classique vers 7h25. Merci, à demain Marcelo. Voici Charles Bonner pour le temps suivi des infos. Charles, bonjour.
Bonjour David.
Les pluies sont toujours soutenues en Méditerranée.
Ce qui fait que plusieurs départements sont en vigilance orange. Pluie, inondation, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Corse, ainsi que l'Hérault pour un risque de crue. Des pluies accompagnées d'un vent fort matin et après-midi. Temps humide également sur le littoral atlantique. C'est plus sec du centre au nord-est. Les températures 4 à Strasbourg, 10 à Lille, 12 à Orléans, 7 à Lyon, 9 à Rennes et 11 à Bordeaux.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin, la lutte contre le sida affaiblie par les coupes de Donald Trump. 3 millions de malades dans le monde n'ont plus de traitement. Les Européens prêts à sortir leur arme majeure de riposte contre les États-Unis. La méthode forte pour répondre aux droits de douane de Donald Trump imposé à 8 pays, dont la France. Et puis des escaliers dont on ne sait pas s'ils montent ou descendent. Des paysages impossibles. La Monnaie de Paris consacre une rétrospective à Moritz Cornelius-Escher.
Après le journal L'Écho du Monde, comment l'Europe peut-elle tenir tête à Donald Trump et jusqu'où? L'analyse à suivre de Christian Macarian, suivi du journal imprévisible. Souriez, c'est la journée de la déprime, mais Marc Bourreau a l'antidote. Un an après le retour de Donald Trump, la lutte contre le VIH décline.
Conséquence de l'arrêt brutal du programme d'aide américain Coalition Plus, l'union d'ONG spécialisées dans la lutte contre le sida, publie ce matin son enquête et constate que dans 3/4 des pays, Rémi Pfister, les programmes et les soins sont durement touchés.
Première conséquence de ces coupes budgétaires américaines, près de 3 millions de malades du sida n'ont plus de traitement, en majorité en Afrique et en Europe de l'Est. Parallèlement, 4 ONG sur 5 n'ont plus accès à la PrEP, ce traitement préventif administré aux populations très à risque de s'infecter, explique Vincent Leclerc, directeur de Coalition Plus.
On sait que la PrEP fait partie de ces outils de prévention essentiels pour contrôler l'épidémie de VIH de demain. Depuis janvier 2025, les choses se sont effondrées et aujourd'hui on sait qu'on ne sera pas du tout en condition d'éliminer le VIH pour 2030 et il faut s'attendre à une épidémie qui durera longtemps et qui marquera durablement le 21e siècle.
Ces baisses de financement impactent également le dépistage. Si les kits sont encore livrés, difficile de les distribuer. Chaque ONG a licencié 45 agents de terrain en moyenne, se désole Vincent Leclerc.
Du coup, l'enjeu, c'est que des personnes qui n'auront pas l'opportunité de rencontrer dans leur quartier ces travailleurs sociaux n'auront pas d'opportunité de se dépister. Et là, ce qu'on risque de voir, c'est des arrivées très tardives vers le dépistage et des personnes qui sont à un stade avancé. Et ça, c'est à la fois pour les personnes, leur santé et pour l'épidémie en général, une catastrophe.
Selon les dernières prévisions de l'OMS, l'arrêt des financements américains provoquera la mort d'environ 6 millions de personnes lors des 4 prochaines années.
Des coupes dans l'aide humanitaire et des droits de douane, c'est l'autre grand marqueur de la politique de Donald Trump. Manière de contraindre à la négociation une nouvelle fois sur le Groenland tant que le territoire autonome danois ne sera pas vendu aux États-Unis. Des droits de douane imposés à 8 pays, dont la France, 10% au 1er février, puis 25% à partir de juin. Maintenant, ça suffit, nous dit Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew.
C'est un moment historique. Soit on se redresse, soit on se couche et on disparaît de l'histoire. Si on reste divisé, on sera faible. Moi, je souhaite que les Européens n'aient pas la main qui tremble. Ce n'est pas nous qui commençons une crise transatlantique. C'est malheureusement Donald Trump qui traite l'Alliance Atlantique comme une relation entre un suzerain, lui, et des vassaux, nous. La politique d'apaisement a été un échec. Et en 2025, on a vécu une année d'humiliation. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui se met à plat ventre devant Donald Trump. Ursula von der Leyen qui signe un mauvais accord commercial avec les États-Unis. États-Unis, nous allons le geler, cet accord commercial, ça suffit.
Geler l'accord commercial, c'est une réponse, il y en a une autre, c'est la méthode forte défendue par la France et Emmanuel Macron. Éric Kioch, cette méthode forte, c'est l'instrument anti-coercition.
C'est l'arme de dissuasion la plus puissante de l'Union européenne. Il lui permet de lutter contre toute agression commerciale extérieure. La Commission européenne peut l'activer de son propre chef ou sur demande de l'un des 27. Ensuite, pour être déclenché, il doit être voté à la majorité qualifiée, soit 55% des États membres. Un processus qui peut être rapide s'il n'y a pas d'opposition, mais en cas de désaccord, cela pourrait prendre des mois. Une fois le feu vert obtenu, la Commission européenne engage des négociations avec le pays agresseur, ici les États-Unis. Si aucun compromis n'est trouvé, la Commission peut alors décréter des mesures de rétorsion, restreindre, interdire même certaines importations américaines, bloquer leurs investissements en Europe, voire leur interdire l'accès aux marchés européens. Mais selon plusieurs observateurs, la Commission européenne pourrait appliquer le plan de représailles qu'elle avait élaboré l'été dernier en cas d'échec des négociations commerciales avec les États-Unis, c'est-à-dire augmenter les droits de douane sur l'équivalent de 93 milliards de dollars de produits américains importés en Europe. Impossible pour le moment de savoir quelles options seront retenues, car depuis son adoption en 2023, l'instrument anti-coercition n'a jamais encore été activé. Il s'agirait donc d'une première si les 27 décidaient de le déclencher contre les États-Unis.
Éric Kioch, et pour éviter que l'Allemagne bloque le vote, le ministre français de l'économie va rencontrer son homologue aujourd'hui à Berlin. En Syrie, un accord de cessez-le-feu entre en vigueur entre le pouvoir central et les forces kurdes. Contrainte d'abdiquer face à l'avancée de l'armée, le président Ahmed al-Shara veut intégrer les forces kurdes à l'armée nationale et reprendre le contrôle de tout le territoire.
Vous écoutez Radio Classique, 7h35. C'est aujourd'hui que le gouvernement va annoncer comment il compte faire passer son budget.
Avec deux solutions, soit le 49.3, soit les ordonnances. Ce sera annoncé après un conseil des ministres cet après-midi. Après les dernières annonces, les dernières concessions annoncées vendredi, le Parti Socialiste écarte la censure. Le gouvernement qui sera bientôt privé de sa ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle va démissionner pour se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris. Cela fait des années qu'elle se prépare et son lancement de campagne, c'était hier soir à la Maison de la Mutualité. C'est le reportage de Lucie Dupressoir.
Pour lancer sa campagne, Rachida Dati a voulu miser sur toutes les forces.
Cher Valérie, cher Bruno.
Au premier rang des représentants de l'UDI, allié historique de Renaissance, du Modem, des Républicains. Invité de dernière minute que l'on n'avait pas vu depuis longtemps auprès de Rachida Dati, Bruno Retailleau.
Rachida n'est pas la meilleure candidate simplement parce que elle est la mieux placée. Rachida est aussi la meilleure candidate tout simplement parce qu'elle incarne ce que Paris a perdu.
Moins de 10 minutes de discours, service minimum pour le président des Républicains qui ne s'est pas affiché aux côtés de sa candidate pour répondre aux questions de la presse. Pour faire union, il manquait aussi des partis hier. Sans jamais les nommer, Rachida Dati a appelé au désistement de Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon, et Sarah Knafo, proche d'Éric Zemmour.
Ne vous laissez pas embarquer par ceux qui prétendent incarner une troisième voie. J'en appelle aussi à ceux qui souhaitent rassembler la droite et le centre. Ils savent que leurs candidats ne peuvent pas gagner. Donc que veulent-ils ? Nous faire perdre ? Qu'ils prennent leurs responsabilités.
Si Rachida Dati ne fait pas l'unanimité dans son propre camp, un soutien résume. Elle a ses défauts, mais c'est notre meilleure chance pour Paris. Nous n'avons pas de plan B.
Deux quartiers de Narbonne sont évacués, menacés par les fortes pluies. Décision du préfet de l'Aude. Les écoles sont fermées également dans le département qui fait partie des 5 placés en vigilance orange, pluie, inondation ou crue. En Espagne, un accident ferroviaire fait 39 morts selon le nouveau bilan dévoilé à l'instant. Un déraillement d'un train avant une collision dans le sud du pays près de Cordoue. Des dizaines de blessés dont 6 dans un état grave. C'est la première étape d'un parcours qui va durer jusqu'à début juillet. La phase de vœux qui commence aujourd'hui sur Parcoursup. 10 vœux pour les lycéens non hiérarchisés à remplir avant le 12 mars.
Il fait partie de ces artistes dont les œuvres qui ressemblent à des casse-têtes ou des énigmes sont parfois plus connues que son nom.
Moritz Cornelius Escher, mort en 1972 et célèbre pour ses paysages impossibles, ses escaliers dont on ne sait pas s'ils montent ou descendent, un moulin dont l'eau circule en vase clos. Augustin Lefebvre, vous avez visité la première rétrospective que lui consacre la Monnaie de Paris.
Oui, et dès ses œuvres de jeunesse, on distingue les thèmes favoris des Escher, des bâtiments étranges comme cette cathédrale engloutie ou cette tour de Babel vue du ciel, mais aussi des formes inquiétantes dans ces paysages. Jean-Hubert Martin est le commissaire de cette exposition.
effectivement, on voit apparaître des visages dans les rochers. Dès sa jeunesse, il s'intéresse à ce qui va au-delà de la simple représentation des apparences.
Vient ensuite le travail sur les formes qui a rendu Escher célèbre. Un jeu sur les contrastes, des oiseaux deviennent des poissons, le jour devient la nuit. Contraste aussi dans son public, avec ses paysages impossibles. Escher plaît aux mathématiciens pour sa rationalité et aux hippies pour son imagination, mais pas aux institutions culturelles.
Les grands musées d'art, se préoccupant en général essentiellement d'œuvres uniques et non pas de gravures, l'ont marginalisé, alors qu'il appartient évidemment à ce qu'il y a de plus important durant le XXe siècle. Grâce à son travail sur la perspective, où il arrive à lui faire dire ce qu'elle ne devait pas dire. Elle devait créer une profondeur et en fait elle crée un monde complètement impossible qui est un monde imaginaire.
Ce monde imaginaire prend vie dans des salles ludiques au fil de l'exposition, avec des miroirs ou des échiquiers qui nous projettent au cœur des illusions d'optique des chairs.
Augustin Lefebvre, et c'est à découvrir jusqu'au 1er mars à la Monnaie de Paris.
Merci mon cher Charles, vous revenez à 8h30 si vous le voulez bien pour le rappel des titres à suivre. L'écho du monde, merci à vous. L'écho du monde et la réaction européenne aux sanctions tarifaires américaines avec le Groenland. En pomme de discorde, Radio Classique, 7h39, on attend Christian Macarian.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199€ par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-Discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
La riposte européenne, la sanction tarifaire américaine, l'écho du monde à suivre avec Christian Macarian.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160€ par mois avec 5 740€ de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700€, prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Christian Macarian pour l'écho du monde à 7h42. Bonjour Christian.
Bonjour David.
Donald Trump a menacé 8 pays de droits de douane de 10% sur toutes les marchandises expédiées aux États-Unis à compter du 1er février 2026, qui s'ajoute à l'existant évidemment, tant que ces pays dont la France s'oppose à l'annexion du territoire autonome danois par les États-Unis. Et la France a aussitôt répliqué. En quoi consiste la mesure de rétorsion brandie par la France?
Eh bien, si les menaces de surtaxes douanières agitées par Donald Trump sont mises à exécution, Emmanuel Macron, qui a été toute la journée d'hier en contact avec ses homologues européens, va demander l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Pardon. l'instrument anti-coercition qui a été institué par l'UE en 2023 et qui n'a encore jamais servi, a été conçu pour faire face aux pays qui se risquent à restreindre les échanges commerciaux pour tenter d'imposer un changement dans les politiques de l'UE. Exemple typique, la Chine, qui avait imposé des restrictions commerciales à Lituanie après que Vilnius avait annoncé l'amélioration de ses relations commerciales avec Taïwan en 2021. On l'aura compris, donc, l'instrument anti-coercition vise principalement la Chine. Or, voilà qu'il serait appliqué aux États-Unis.
Et alors, est-ce que la France seule peut activer cet instrument ?
Eh bien non, David, l'activation de cet outil requiert la majorité qualifiée des pays de l'Union européenne et on se doute bien que les pays qui sont ouvertement pro-Trump, comme la Hongrie ou la Slovaquie, mais peut-être aussi l'Italie, vont renacler. Mais ce n'est pas le fait le plus marquant ce matin. En cas de fracturation du camp européen, on voit bien que l'avenir de l'OTAN serait en cause. Mais pour l'instant, on voit surtout le contraire. Une solidarité européenne incroyable qui s'affirme autour du Danemark, comme le montre le net rapprochement entre Paris et Berlin, auquel s'est joint Londres. Franchement, quand vous lisez les communiqués et les déclarations des Britanniques, c'est un ton inhabituellement ferme à l'égard des États-Unis. L'anti-coercition permet entre autres le gel de l'accès au marché public européen ou le blocage de certains investissements en Europe visant le pays concerné. Mais Macron va encore plus loin. L'Élysée estime que les menaces commerciales américaines posent la question de la validité de l'accord sur les tarifs conclu entre l'Union européenne et les États-Unis le 27 juillet 2025 à Turnberry en Écosse. C'est ce fameux accord humiliant pour les Européens qui a infligé des droits de douane globaux de 15% à l'Europe et 50% sur l'acier et l'aluminium, s'il vous plaît, contre seulement 10% imposés au Royaume-Uni. En menaçant d'augmenter subitement les droits de douane à cause de ses prétentions sur le Groenland, Donald Trump fiche par terre littéralement l'accord de Turnberry qui était pourtant totalement favorable aux Américains.
Alors évidemment, on redoute une escalade qui va mettre l'économie européenne par terre avec des effets imprévisibles entre les États-Unis et l'Europe.
Alors, soit c'est une partie de poker et qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la surenchère. Il faut montrer qu'annexer le Groenland aura un coût élevé pour les États-Unis. Ce ne sera pas gratuit. Donc, il faut rester ferme. Soit c'est plus sérieux et on entre alors dans un engrenage qu'il faut vraiment anticiper. Alors, d'ores et déjà, notamment, il faut anticiper la réplique de Trump qui peut parfaitement consister à brandir la menace militaire contre l'Europe. Alors, que fait-on si c'est le cas ? Eh bien, il ne faudra pas être pris au dépourvu. Il faut d'ores et déjà se préparer à toutes les hypothèses.
Christian Macarian vous aura prévenu pour l'écho du monde. À demain, Christian. On retrouve votre podcast sur l'application Radio Classique. Notez qu'à 8h15, je recevrai le politologue Thierry Garcin. Il a publié Géopolitique de l'Arctique aux éditions Economica. Et évidemment, on reparlera de cette affaire du Groenland. Dans un instant, le Blue Monday, autrement dit, le troisième lundi de janvier, supposément le jour le plus déprimant de l'année. La déprime, c'est le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau qui garde le sourire et qui va vous fournir un antidote à la mauvaise humeur. Il est 7h46.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Pour le paiement de votre facture, soyez rassuré, Monsieur Martin. Nous avons amélioré nos process. Désormais, les factures sont enregistrées en Pologne.
Pologne, contrôlé en Slovaquie, validé en Irlande et bien entendu réglé par la France. Alors vous voyez...
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet ARC a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet ARC, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
Épargne. Les taux des livrets continuent de baisser. Les rendements reculent mois après mois et la tendance semble se confirmer.
Voilà, encore une mauvaise nouvelle. Heureusement, moi, j'ai mon livret Distingo Bank. Stable, prévisible et sécurisé.
Les épargnants s'inquiètent d'une perte progressive de rendement.
C'est pourtant simple. Direction distingobank.fr. En ce moment, il y a un taux boosté et une prime de bienvenue en plus.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau.
Bonjour David. Marc.
Nous sommes le troisième lundi du mois de janvier, oui. Traditionnellement appelé le Blue Monday, oui. Le lundi bleu, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. La déprime, ses symptômes et surtout ses remèdes, c'est le thème ce matin de votre journal imprévisible.
Ah oui, c'est presque mathématique, David. Un soupçon de ciel gris, plus des nuits qui démarrent à 16h30. Vous ajoutez à cela la fatigue d'après-fête, les résolutions non tenues, une actualité anxiogène, vous obtenez une belle déprime saisonnière.
Là, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 ventes et terminer bonsoir.
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Ah oui, la mélancolie sous un ciel d'ardoise et un plafond bas, ça concernerait 20% de la population française en hiver. Une déprime saisonnière qui s'ajoute à toutes les autres.
T'es pas gay, toi.
Oh, mais tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay.
Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Un numéro de claquette ?
Ah oui, il y a les irrécupérables qui s'ajoutent au cafard de la rentrée ou ce blues de fin de week-end qui chamboulait Jacques Brel.
Et nom de Dieu, c'est Aristoli le dimanche. Avec ou sans Béco.
La sérotonine se détraque aussi dans la littérature où l'on se morfond inexorablement comme Michel Houellebecq.
En vieillissant, on est tous confrontés à une forme de dépression inévitable.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle.
Voilà, nous avons touché le fond, David. Hippocrate aussi avait son mot à dire dans sa théorie des humeurs. La rate déverserait dans le corps humain de la bile noire qui déclencherait cet excès de mélancolie. Ça donne l'expression « se mettre la rate au courbouillon ». Ça donne aussi ce spleen si cher à Baudelaire qui pointait déjà du doigt le ciel et le mauvais temps dans son spleen de Paris.
L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux.
Est-ce qu'il ne vaut mieux pas en rire de cette fameuse déprime ? Il vaudrait mieux. Raphaël Mesrahi conjure le sort depuis 12 ans avec sa nuit de la déprime à base de distribution de mouchoirs, de pâtes à tartiner et de chansons tristes. Un monde où tout le monde est prêt à déprimer dans la bonne humeur.
J'ai appelé Henri Comasias pour lui demander de venir chanter « J'ai quitté mon pays ». Donc t'es mort de rire, après j'ai pu à Nicoletta, il est mort le soleil, Adamo tombe la neige, Hugo Fraisse, Céline Sciobel, par exemple, pour plomber l'ambiance. J'ai appelé Henri Lecomte, j'ai dit tu seras dans le hall, tu tiendras le stand, j'ai jamais pu gagner Roland-Garros, on va jusqu'au bout du bout, quoi. Tout le monde m'a dit oui. Essayer de faire au mieux pour faire le plus de bien, le reste n'a aucune importance, quoi. Il y a toujours une issue de secours dans la déprime.
Mais oui, il y a des issues de secours. Un bon carré de chocolat noir, du poisson gras, des fruits à coque et un écart de temps à autre pour les plats en sauce.
Essaye les trucs salés, ça passe tout seul.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Le Blue Monday, c'est un morceau du groupe New Order. C'est aussi une formidable opération commerciale, David. Ce lundi bleu, en vérité, n'existe pas. Il est monté de toutes pièces depuis 2005, sans aucune base scientifique, par une compagnie aérienne britannique, dans le but de vendre des billets pour le soleil. Le business de la déprime pour augmenter les ventes, comme cette chanson parfaite, élaborée par un professeur de l'université de Sheffield en Angleterre, 137 battements par minute, une succession de 4 accords savants, le tout financé par une marque de yaourt. Alors oui, mieux vaut en rire, un bon antidote simple et gratuit venu d'Allemagne. Pas moins de 40 clubs de rire chaque hiver dans tout le pays qui tournent à plein régime pour passer les mauvais moments. On rigole, on imite les animaux de la basse-cour et tout autre subterfuge pour défendre, pour détendre les zygomatiques.
Quand je vais mal, je vais me promener et je fais ça. Je frappe des mains, les nerfs se rencontrent et ça irradie tout le corps.
Ici, je me recharge les batteries pour toute la semaine, parce qu'à la maison, on a perdu le sens du rire. Ici, je rigole.
Alors dépêchons-nous de rigoler, de taper dans nos mains, de croquer dans le chocolat. Le temps presse, il ne vous reste plus que 2 petits mois, David, avant l'arrivée du printemps.
Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
Je suis dans un état proche de l'Ohio, j'ai le moral à zéro.
Il y a toujours une issue dans la déprime, disait Raphaël Mesrahi, organisateur de la nuit de la déprime. C'est dans quelques semaines, je crois, mais aujourd'hui c'est Blue Monday. Et vous nous aidez à en sortir, Marc Bourreau. Il nous faudrait un peu de soleil quand même, parce que la lumière, c'est très bon pour le moral.
La luminothérapie, toujours.
Vous retrouvez le journal imprévisible de Marc Bourreau sur l'application Radio Classique. Il a souvent le sourire, presque toujours. C'est David Barou. Pourtant, il traite de sujets graves. Et cette question qui se pose aux entreprises qui exportent aux États-Unis, comment s'adapter à la guerre tarifaire? Voici David Barou. Il est 7h54.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€ réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aesio Mutuelle présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence.
Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui.
Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h55, voici David Barou pour le décryptage.
Avec Invivo, Union des coopératives agricoles françaises engagées pour la transition agricole.
Bonjour David Barou.
Bonjour David Abiker.
Un an après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et au lendemain de la relance d'une guerre tarifaire, que doivent faire les entreprises pour s'adapter à cette nouvelle donne ?
Donald Trump a déjà changé des choses de manière très objective et mesurable. Quand il impose de nouveaux droits de douane de 15% l'été dernier aux exportations européennes, cela a un impact économique à court terme et un autre à moyen terme. Le court terme, c'est que ça pèse sur la compétitivité ou sur l'attractivité du Made in Europe et donc cela va lentement mais sûrement nuire à nos exportations. Et sur la durée, cela peut pousser les entreprises qui veulent continuer à se développer sur le gigantesque marché américain à localiser une partie croissante de leur production sur le territoire des États-Unis. Mais finalement, au bout d'un an de méthode Trump, on se dit que ça n'est presque que l'écume des choses, tout ça. On parle de changements face auxquels les entreprises peuvent s'adapter. Ça peut être coûteux et douloureux, mais si on a de la visibilité, on sait quoi faire. Mais Trump, malheureusement, ça n'est pas que ça.
Qu'est-ce qu'il a changé d'autre pour les entreprises dans sa politique, Donald Trump ?
Moi, je retiendrai deux mots, imprévisibilité et arbitraire. L'imprévisibilité, c'est le fait qu'avec lui, plus rien n'est sûr. On peut négocier un deal en juillet et il peut le balayer d'un tweet quelques mois plus tard. C'est catastrophique car on peut plus rien prévoir. L'arbitraire, c'est un peu la même chose, mais en pire. Historiquement, les États-Unis étaient un pays de droit et de contre-pouvoir. Une entreprise pouvait investir dans un cadre défini. La loi pouvait faire évoluer les règles, c'est sûr, mais on pouvait défendre son point de vue auprès des politiques ou devant des juges. Aujourd'hui, on a un président qui décide tout seul et qui se fiche de la loi. Il décide par décret, il sanctionne sur des coups de tête. Pour les entreprises qui sont dans le temps long, qui doivent prendre des risques de façon mesurée, en planifiant des retours sur investissement, c'est un vrai casse-tête. Trump pense qu'à long terme, au moins, ce qu'il fait sera bon pour son pays. Mais pour l'instant, le risque, c'est qu'on replonge tous dans un brouillard très épais. On ne voit pas où on va. Et quand on ne voit pas où on va, on fait quoi? On ralentit pour éviter l'accident. Les entreprises pensaient qu'elles commençaient à comprendre Trump et elles s'étaient remises en mouvement. Là, le risque, c'est à nouveau celui d'une grande paralysie, ce qui pèsera sur le dynamisme économique de l'Europe, mais aussi, il faut l'avouer, des États-Unis.
Et n'oublions pas que nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, la politique tarifaire de Donald Trump que vous venez de citer, et de l'autre côté, un mauvais budget pour les entreprises, en tout cas en 2026. Tout cela risque de mettre l'économie française par terre. Merci David, à demain. Voici Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Aujourd'hui, Lazare Carnot.
Ah oui, je vais vous parler de l'organisateur de la Révolution. Vous savez, ce personnage assez extraordinaire qui est à l'origine de la dynastie républicaine des Carnot, n'est-ce pas? Ce Lazare Carnot, on va le voir dans la Révolution. On va pas pouvoir évoquer toute sa vie, mais vous allez voir, c'était un personnage tout à fait hors du commun.
Vous retrouvez Franck Ferrand un peu après 9h avec Lazare Carnot dans les grands dossiers de l'histoire. La météo avec vous, Lénaïque Monnier. Vous nous dites attention à la pluie.
Oui, sur le Languedoc-Roussillon et à l'est de la Corse, entre le sud de l'Aquitaine et le sud de Rhône-Alpes et sur la façade atlantique. Toute cette zone-là sera très humide. Les conditions évoluent peu d'ailleurs durant la journée sur l'ensemble du pays. Vos températures ce matin, il fait 13 degrés à Nice, 3 à Paris, 8 à Toulouse et 4 à Lyon. Et cet après-midi, vous aurez 11 degrés à Biarritz et Tours, 10 à Brest et 9 à Lille.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal.
Les Européens unis face au chantage aux droits de douane de Donald Trump. L'Union prête à utiliser son arme la plus puissante de dissuasion. Finalement, ordonnance ou 49-3, un conseil des ministres se tient aujourd'hui pour faire un choix. Et puis une parenthèse déconnectée, un lycée du Gard a interdit le smartphone il y a déjà 3 ans. Nous dressons